pour le deuxième temps de cette série consacrée à la philosophie du sport. Aujourd'hui, la boxe ou le dialogue des corps, en compagnie de l'écrivain Patrice Lelorin. Bonjour à vous.
Bonjour.
Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I come to Barry Liston, not to praise him. I'm going to fight Sonny Liston. That is, if he doesn't chicken out. I will win that fight because I'm president of the boxing world. And this fist is my veto. I am the greatest. Mr. Liston is an old man. He's 30 years old. He has no business being in the same ring with me. I'd like to help that poor old man. I want to give him lessons, boxing lessons. Clay comes out to meet Liston, and Liston starts to retreat. But if he goes back an inch farther, he'll end up in a ringside seat. Clay swings with his left. Clay swings with his right. Look at young Cassius carry the fight. Liston keeps backing, but there's not enough room. It's a matter of time. Aaron Clay lost the boom. Who would have thought? When they came to the fight, that they witnessed the launching of a human satellite. Yes, the crowd did not dream when they put down their money that they would see a total eclipse of the sun.
Patrice Lelorin, vous êtes l'auteur de nouvelles, un recueil de nouvelles intitulé 4 Uppercuts, paru aux éditions de la Table Ronde et qui a reçu le prix de la nouvelle de l'Académie française, mais également d'une biographie de Mohamed Ali, la légende de Mohamed Ali qu'on trouve également aux éditions de la Table Ronde. Et c'est donc avec vous que nous allons discuter de la boxe et réfléchir sur ce sport, on va y revenir, ce sport particulier extrêmement fécond pour la pensée, à partir notamment du décalage entre la fiction et la réalité. On a entendu tour à tour la voix de Mohamed Ali, c'était en 1964, avant...
74,
pardon, avant un match justement avec Sonny Liston, où il explique comment il va essayer de le défaire.
Il fait référence au match.
Oui.
Contre Sonny Liston qui a eu lieu 10 ans auparavant.
En 64,
ouais. Mais là, il est en 64. Il est en 74, il va affronter George Foreman au Zaïre. George Foreman, Ali n'a plus le titre à l'époque. Hein. Il l'a perdu contre Joe Frazier et Frazier s'est perdu un peu, s'est grisé de son succès et a été atomisé par George Foreman. Donc,
Ali... Et on l'entend raconter,
oui,
imaginer voilà. En même temps, voilà. Il y a ce récit du combat. Et juste après, on s'est pas privé du plaisir de diffuser la bande originale de Rocky, Eye of the Tiger, qui est bien souvent, ceux qui ne connaissent pas le monde de la boxe, connaissent la boxe à travers ce film-là pour ceux qui l'ont vu. Et finalement, quand on entend les deux mis bout à bout, on se dit qu'il n'y a pas tellement de différence dans le monde de la boxe entre la fiction et la réalité.
Le cinéma et la boxe, oui, se retrouvent souvent. Ce qui est intéressant, c'est à travers l'histoire de, c'est que Marciano et Ali, en fait, se sont combattus.
Alors Rocky Marciano,
en fait, est
le dernier
grand poids lourd américain blanc. Après, les blancs n'auront plus jamais, enfin, les blancs américains seront en quête du Great White Hope, le grand espoir blanc. Il y en aura une flopée et ça ne sera que des désastres. Et d'une certaine façon, ils ont essayé de récupérer le titre par le biais soit de l'image ou de la fiction. Alors, par exemple, je vais faire un peu d'histoire. Mohamed Ali a été interdit de combattre suite à son refus d'incorporation en 1967 pour la guerre du Vietnam. Donc, il a été arrêté 3 ans et demi. ce qui l'a bien contrarié et causé évidemment beaucoup de soucis financiers. Et il avait accepté de faire un combat fictif qui serait en fait jugé ou réglé par un ordinateur. Et donc, lui et Rocky Marciano, qui était vieux, qui avait perdu 40 kilos et mis une perruque pour l'affaire, étaient filmés dans toutes les positions. Et l'ordinateur devait recréer ce combat imaginaire, mais et qui a été diffusé, dont on a tenu secret le final, et qui a été diffusé dans les cinémas le jour J. Et évidemment, l'ordinateur a donné Marciano vainqueur, puisque ce que les Américains blancs ne pouvaient pas avoir en réalité sur le ring, ils le reproduisaient dans l'image. Et 5 ans plus tard, puisqu'on entend la musique de Rocky, c'est une nouvelle façon de faire renaître Marciano à travers Rocky Balboa, le personnage incarné par Stallone. C'est un blanc besogneux qui y va. Et avec l'empire de la fiction, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gamins ont confondu, ont pensé que Rocky Balboa existait vraiment. Et ce qui est un peu ironique même, c'est que beaucoup de gamins noirs qui sont devenus des bons boxeurs, voire des champions, sont venus à la boxe en regardant Rocky.
Mais indépendamment de la question raciale sur laquelle on va revenir, parce qu'elle est déterminante hein, pour quand on réfléchit sur la boxe, il est intéressant de voir que le personnage de Mohamed Ali, on va le prendre à l'inverse, le personnage de Rocky, aussi fictionnel soit-il, est assez réaliste. C'est-à-dire que Mohamed Ali lui-même va se présenter comme un personnage qui, dans l'extrait qu'on a entendu, s'est joué avec son public, s'est suscité le rire alors qu'il s'apprête à s'adonner à un combat extrêmement, extrêmement difficile. Il se construit lui-même une forme de légende.
Oui, c'est pour ça que je l'avais un peu comparé à Dylan ou à Alexandre Dumas. Ce sont des gens qui, dès l'enfance, ont conscience de leur propre destin, le forgent et le sculptent. Mais il est parfois difficile de discerner le réel du moins vrai. Ali n'a cessé de construire son histoire. Il faut dire que quand il apparaît, il est champion olympique jeune, hein, à 17 ans, il était déjà extrêmement bavard, extrêmement vantard, avant qu'il ait son officielle prise de conscience. Hein, il était surnommé en tant que jeune professionnel « The Leap ». C'est-à-dire qu'il n'arrêtait pas de se vanter, de bavarder. C'était une partie aussi de son génie publicitaire. Il avait compris que provoquer, même si les gens venaient pour le voir perdre, il venait quand même, il s'intéressait à son image. Hein. Il avait pour ça tiré les leçons du catch. Hein. Il avait vu que quand on irrite, c'est beaucoup mieux que quand on vous ignore. Bon. Et puis, il a eu cette conversion officielle en 1964, qu'il a annoncé juste après sa victoire contre Liston. Et ça, c'était une provocation ultime. Ça a fait énormément parler de lui. C'est-à-dire que Black Muslim, c'était pas simplement noir et musulman, c'était aussi une secte qui avait très très mauvaise réputation. Hein. Aujourd'hui, on n'imagine pas trop ce que c'était. Il y avait un gourou qui était Elijah Muhammad. Et d'ailleurs, Malcolm X, qui est resté plus célèbre que Elijah Muhammad, qui avait été recruté en prison, parce qu'il faisait beaucoup de prosélytisme en prison, s'est brouillé avec Elijah Muhammad parce qu'il n'aimait pas ses manières de gourou. Et Elijah Muhammad l'a fait éliminer physiquement, tout de même.
Alors, retour en 64, ouais. Justement, écoutons Léo Zitronde en parler.
Il existe plusieurs mouvements de Noirs qui se refusent absolument à l'intégration. Pour eux, la séparation des races est un credo. Il y a des degrés dans la violence de ces mouvements. Certains se contentent de prôner le retour aux sources africaines des peuples noirs. Pour d'autres, et notamment pour les Black Muslims, il faut carrément couper les États-Unis en deux. Cassius Clay, le nouveau champion du monde de boxe poids lourd, a adhéré à ce mouvement des musulmans noirs. D'abord une question, est-ce à cause de cette adhésion à ce mouvement que le titre de champion du monde vous est contesté par certains? Non. L'une des grandes qualités des États-Unis est que chacun peut y pratiquer la religion de son choix. S'ils invoquaient la question religieuse, ceux qui m'attaquent auraient l'opinion contre eux, le monde contre eux. Et même les Nations Unies s'en mêleraient. En adhérant aux Black Muslims, vous avez abandonné votre état civil de Cassius Clay et vous avez pris le nom de Mehemet Ali. Pourquoi ? Mes ancêtres étaient africains. Ils furent achetés là-bas par des colons américains comme esclaves. Et les propriétaires américains donnèrent à ces esclaves noirs leur propre nom pour bien marquer qu'ils étaient leur propriété. Cassius Clay était le nom d'un esclave. Mehemet Ali est un nom bien musulman, bien à moi. C'est un nom d'homme libre. Enfin, je ne me sens plus un esclave.
Many European countries, and it's a greater feeling fighting in the black country.
Il dit, je me suis battu dans n'importe où, dans plusieurs pays européens, en Asie. Mais c'est tout à fait normal que je me batte en Afrique.
I fight in Africa because I'm fighting in my homeland.
Je me bats en Afrique parce que je me bats dans mon propre pays natal.
Thank you very much. America's not my original homeland. My original homeland is Africa.
L'Amérique n'est pas mon pays d'origine. Mon pays d'origine est l'Afrique.
And after 400 years of being separated, me and thousands of more American blacks will be returning home after 400 years.
Après, vous avez une question?
Go to your cinemas early because I might knock him out in round one. Go to the cinema early so you will not miss the fight. Do not be late. Come early.
Il faut pas venir en retard, il faut être à temps.
1 hour early.
Il faut venir une heure avant.
And get your seats.
Et avoir votre chaise, votre place.
Because it might be like the second Sonny Liston fight. 1 minute first round.
Il dit ça pourrait être comme le match que j'ai eu avec Liston.
D'abord, en 1964, où Mohamed Ali explique au micro de Léon Zitrone que sa conversion est pour lui une manière de se libérer de son statut d'esclave. Et puis, 10 ans plus tard, lors de la conférence de presse de 1974, avant le combat dans lequel il va affronter Foreman à Kinshasa, au Zaïre, Mohamed Ali affirme que pour lui, se battre en Afrique, c'est se battre chez lui, qu'il est par conséquent absolument logique qu'il le fasse. On y entend, dans les deux cas, l'expression d'un rapport à la boxe qui passe largement, disons, le caractère divertissant ou de défoulement par la violence de certaines rancœurs accumulées. On est ici dans une colère qui est une colère raciale, Patrice Lelerin.
Ouais. En 74, c'est certainement un homme plus libre qu'en 64. Bon, d'abord, il est plus âgé, il a réfléchi, il a mûri. En 64, il répète presque mot à mot les discours de Malcolm X. Malcolm X avait compris combien il serait utile de rallier à sa cause quelqu'un d'aussi populaire, parce qu'être champion du monde de boxe poids lourd, c'était la personne la plus connue des États-Unis. Donc, il a recruté via son frère, et à l'époque, Ali est un bon acteur, mais il débite mot pour mot les discours de Malcolm X. En 74, c'est un homme plus mûr, qui met plus d'humour d'ailleurs dans ses harangues, hein, qui préfigurent un peu le rap. Il y a un peu des rimes, il y a comme ça. On trouvait ça le talk des jazzman de l'époque aussi. Bon, le combat se déroule en Afrique. On va dire que ça l'arrange bien. On est en 74.
Invité, soi-disant, par Mobutu.
Bon, Mobutu trouve une occasion de consolider son régime ou de faire parler de lui. Et en même temps,
Ce qui met quand même Mohamed Ali dans la position d'être comme de cautionner ce régime zaïrois.
Oui, alors ça, franchement, il s'en fiche. Il va reproduire ce qu'il a fait presque toujours avec ses adversaires noirs, c'est-à-dire là, il est sur un terrain où il est un dieu vivant, hein, en Afrique, et George Foreman a commis l'erreur quand il a été champion olympique, et il est noir aussi, hein, George Foreman, il a été champion olympique, lui, en son temps, un peu plus tard, évidemment 8 ans après Ali, en 68, il a agité un petit drapeau américain. Donc, évidemment, Ali va faire ce qu'il avait fait avec tous ses adversaires noirs. Il va le traiter de nègre blanc, donc le tome, de traître à la cause. Et le combat et la préparation du combat se déroulent dans des conditions très particulières, c'est-à-dire que il y a des foules de gamins ou de gens qui crient Ali Boumaïe, c'est Ali tue-le. C'est-à-dire que je pense que pour Foreman, surtout que la préparation a duré, il s'est blessé, donc il est resté trop longtemps dans cette situation hostile, c'était une situation absolument intenable. Parce qu'il y a quand même une dimension psychologique, si vous avez toute une foule contre vous, dans le stade du 20 mai au Kinshasa, vous avez 80 000 personnes qui crient « tue-le », c'est quand même 60% du combat qui est presque déjà joué. Hein. Donc Ali était comme ça quelqu'un qui déstabilisait beaucoup ses adversaires. Il y avait bon ce côté psychologique. Il avait aussi quelque chose qui était un peu de l'ordre de la, pas de la magie, mais vous savez, tous les boxeurs ont peur. Toute personne qui doit se battre a peur, hein, sauf à agir sous l'aiguillon de la colère ou par réflexe. Quand on sait qu'on va se battre, on a peur. Et je pense qu'Ali avait encore plus peur que les autres. C'est un être sensible. Et comme la peur est un fluide instable, tout l'art, c'est vrai pour une bagarre de rue, mais c'est aussi vrai sur le ring, il faut projeter sa propre peur sur l'adversaire. Comme ça, il a la sienne plus la vôtre, ça fait beaucoup. Et pour faire ça, il agissait presque comme un exorciste. C'est-à-dire qu'il faisait des véritables crises de nerfs. On l'entend, ses limites. Hein, là, il rit encore, mais parfois il ne rit plus. Il se met à hurler, il faisait des crises de nerfs à la pesée, ce qu'il avait fait contre Sonny Liston. Il faisait des crises de nerfs en conférence de presse ou juste à la télé avant. Et même sur le ring, il avait une attitude parfois assez peu guerrière. Il faisait des grimaces outrancières, il jacassait, il donnait des séries.
Et tout ça, c'est de la peur pour vous ?
Pour moi, c'est une façon d'exorciser sa peur et de la renvoyer sur l'autre. Et il réussissait beaucoup à impressionner ses adversaires noirs comme ça. Oui, chose que je sens.
Bon, c'est de la peur plus que de la colère ou de la haine.
Non, c'est de la peur chez lui. Je le ressens comme ça. Je pense qu'il l'exorcisait comme ça, pas de façon presque hystérique. Et mais ils n'avaient pas l'habitude de ça, les types. Ça marchait, sauf avec Joe Frazier.
Mais ce qui montre quand même que c'est un rapport à la peur qui est particulier. C'est un rapport à la peur qui implique d'y faire face. Puisque celui qui boxe parce qu'il a peur, c'est celui qui veut affronter ses propres peurs et les dépasser.
Ouais. D'abord, on n'y fait pas toujours face. Vous connaissez Jerzy Skolimowski, c'est un grand cinéaste polonais. Son premier film s'appelle Walk Over, et c'est-à-dire forfait. C'est l'histoire d'un jeune boxeur qui arrive en finale d'un petit tournoi amateur en Pologne et qui passe son week-end à avoir peur. Il a peur de son adversaire et finalement il ne se présente pas. Donc on peut aussi craquer. Mais la peur, par exemple, les gens se souviennent peut-être de René Jacquot, qui a été champion du monde, qui était un bon boxeur français, qui a gagné des championnats d'Europe de façon tout à fait héroïque, et qui a eu un peu de chance parce qu'il a affronté un type qui s'appelait Don Curry, surnommé le Cobra, et le Cobra n'avait plus beaucoup de venin, il était malade, et René Jacquot a été champion du monde. Et à la suite de cette victoire, de ce titre, il a été tenu d'affronter John Mugabe, qui était un Ougandais qui avait un punch effroyable, qui avait mis en difficulté Marvin Hagler lui-même, Marvelous Marvin Hagler. Et René Jacquot était mort de peur. Il était mort de peur. Il avait fait venir une antenne de soins particulière à côté du stade. Et il avait tellement peur, il était tellement raide qu'il s'est blessé tout seul. C'est-à-dire qu'il s'est cassé la cheville au premier round, alors que c'était télévisé en direct. Et j'ai parlé avec lui, il en a convenu. Si vous voulez, on ne maîtrise pas toujours sa peur.
Qui a quelqu'un en haine s'efforcera de lui faire du mal, sauf si la peur qu'en naisse un plus grand mal pour lui. Et au contraire, qui aime quelqu'un par la même loi s'efforcera de lui faire du bien. Avoir quelqu'un en haine, c'est imaginer quelqu'un comme cause de tristesse. Et par suite, qui a quelqu'un en haine s'efforcera de l'éloigner ou de le détruire. Mais s'il a peur par là de quelque chose de plus triste, autrement dit d'un plus grand mal pour lui, et s'il croit pouvoir l'éviter en ne faisant pas à celui qu'il hait le mal qu'il méditait, il désirera s'abstenir de faire du mal.
And I'm better now than I was when you saw that 22-year-old undeveloped kid running from Sunday Lister. I'm experienced now, professional. Jaw's been broke, been lost, knocked down a couple of times. Bad. Been chopping trees. I done something new for this fight. I done wrestled with an alligator. That's right. I have wrestled with an alligator. I done tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail. That's bad. Only last week, I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean, I make medicine sick.
Bad dude.
Bad. Fast. Last night, I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Incredible.
Fast.
Incredible.
And you, George Fulman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him picked, but the man's in trouble. I'm gonna show you how great.
Je suis meilleur maintenant que je l'étais quand vous avez vu ce gamin sous-développé de 22 ans combattre Sonny Liston. Je suis expérimenté maintenant, professionnel. J'ai été brisé, défait, mis KO plusieurs fois. Je suis méchant. J'ai coupé des arbres. J'ai fait quelque chose de nouveau pour ce combat. J'ai lutté avec un alligator. Je me suis battu avec une baleine. J'ai passé le menotte à un éclair et emprisonné la foudre. La semaine dernière encore, j'ai tué un rocher, blessé une pierre, fait hospitaliser une brique. Je suis si méchant que je rends la médecine malade. Et je suis rapide, rapide. La nuit dernière, j'ai éteint la lumière dans ma chambre. Eh bien, j'étais dans mon lit avant que la salle ne soit dans le noir. Rapide. Et toi, George Foreman, toutes tes côtes vont se courber quand je te frapperai. Tout ton corps. Je sais que vous l'avez choisi. Mais cet homme va avoir des problèmes. Je vais vous montrer à quel point je suis grand.
So many mouths to feed on the farm. Sonny was the second to the last one born. His mama ran away and his daddy beat him back. And he grew up wild, good love he never had. He had a left like Henry's hammer, a right like Benny Bamble. Rode with the muggers in the dark and dread, and all of them sluggers went down like lead. Well, he hung with the hoods, he wouldn't stroke the fans. But he had dynamite in both his hands. Boom, bam, like slammer dough. The bell and the can and the bodies on the floor, beware. The bear's in town, somebody's money says the bear's going down, yeah. The bear never smiles. Sonny's going down 4 miles and miles. Sonny's going down 4 miles and miles.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, et Mark Knopfler, Song for Sonny Liston. Car c'est de boxe que nous parlons aujourd'hui dans le cadre de cette série d'émissions consacrée à la philosophie du sport. De boxe aujourd'hui en compagnie de l'écrivain Patrice Lelorin, à qui l'on doit des nouvelles recueillies sous le titre 4 Uppercuts, et publiées aux éditions de la Table Ronde, un recueil qui a reçu le prix de la Nouvelle de l'Académie Française, ainsi qu'une biographie de Mohamed Ali, la légende de Mohamed Ali, qu'on trouve toujours aux éditions de la Table Ronde.
Black Cadillac, alligator boots, money in the pockets of his sharkskin suits. Some say the bear took a flop, they couldn't believe it when they saw him drop. He had a left like Henry's hammer, a right like Betty Bamberland. Rode with the muggers in the dark and dread, and all them sluggers went down like lead.
Il n'y a rien de fondamentalement ludique dans la boxe, rien qui semble relever de la lumière du jour, du plaisir. Dans ces moments de plus grande intensité, elle paraît contenir une image si complète et si puissante de la vie, de la beauté, de la vulnérabilité, du désespoir, du courage sans limite et souvent autodestructeur de la vie, que la boxe, c'est en fait bien la vie, et qu'elle est loin d'être un simple sport. Lors d'un combat de qualité supérieure, nous sommes profondément émus par la communion du corps avec lui-même, grâce à la chair intransigeante d'un autre corps. Le dialogue du corps avec son autre lui-même, ou la mort. Le baseball, notre football, le basket, ces passe-temps essentiellement américains, sont reconnus comme sport en raison de leur dimension ludique. Ce sont des jeux. On joue au football, on ne joue pas à la boxe. Quand on observe des sports d'équipe, des équipes d'hommes adultes, on voit combien ces hommes sont des enfants, au sens le plus heureux du mot. Mais la boxe, avec la férocité qui la constitue, ne peut être assimilée à l'enfance. Les spectateurs de rencontres sportives tirent une bonne partie de leur plaisir du fait de revivre les émotions collectives de l'enfance, mais les spectateurs de combats de boxe revivent plutôt la petite enfance meurtrière de la race. D'où la sauvagerie occasionnelle des publics des combats de boxe, de même que l'excitation lorsqu'un homme se met à saigner sérieusement. Vu de manière abstraite, le ring est un genre d'hôtel, un de ces espaces légendaires où les lois d'une nation sont suspendues. Entre les cordes, durant une reprise officiellement fixée à 3 minutes, un homme peut être tué sous les coups de son adversaire, mais il ne peut être légalement assassiné.
Dans la proposition 49 de la partie intitulée « Des affects de l'éthique », Spinoza écrit l'extrait que j'ai lu juste avant, disant que qui a quelqu'un en haine s'efforcera de lui faire du mal, sauf s'il a peur qu'en naisse un plus grand mal pour lui. Ce qui laisse penser que le boxeur n'a rien à perdre, puisqu'il est prêt à affronter son adversaire jusqu'au bout. Et c'est cette idée qui est relayée, me semble-t-il, dans le texte que l'on vient d'entendre, un extrait du livre de Carol Oates, qu'elle consacre à la boxe, où elle dit bien ceci. On joue au football, hein, beaucoup de sports sont ludiques, le baseball, notre football, le basket. On joue à ces sports, mais on ne joue pas à la boxe.
Je suis en accord avec Oates sur le fait que la boxe n'est pas un sport, c'est une activité.
C'est pas un jeu, dit-elle.
Mais moi, je dis c'est pas un sport. C'est, ouais. C'est une activité de gladiateur moderne pour laquelle il vaut mieux être un grand athlète et même un artiste. Mais je ne considère pas que ça soit un sport parce que l'objectif étant la destruction de l'autre, on peut pas vraiment parler d'un sport. Mais je voudrais rebondir sur l'enfance. Elle fait allusion à l'enfance et on parle souvent de la boxe. C'est ce qui traverse tout son livre, hein, que la boxe serait l'expression d'une virilité idéale. Bon, c'est vrai, bien sûr, c'est assez séduisant. C'est aussi le drame, c'est la théâtralisation du drame, les destins qui se croisent dans le carré de lumière, les protagonistes qui arrivent encapuchonnés, on ne sait pas trop s'ils sont bourreaux ou victimes. C'est la présence de la mort, parce que le chaos est une mort symbolique. Donc tout ça, c'est très pesant et émouvant, et tout le monde le ressent plus ou moins confusément. Mais assez récemment, c'était d'ailleurs en 2008, au cours d'un interview, ça m'est venu tout seul. Enfin, ça m'a surpris moi-même, je veux dire. Il m'est venu l'idée que la boxe était aussi le terrain de l'enfance battue. Je me suis souvenu de Monsieur Martial, qui était entraîneur, et qui essayait de m'enseigner les rudiments de la garde. C'est-à-dire, si vous êtes droitier, il faut lever votre main gauche. Et il me disait, Monsieur Martial, quand votre papa vous donnait une claque, vous leviez la main comme ça. Tout de suite, pour la mémoire de mon père, j'ai précisé que c'était un homme très doux, très bon, puis on s'arrête pour ma famille. Mais Monsieur Martial savait à qui il s'adressait. Il savait qu'il s'adressait à beaucoup d'enfants battus. Et qui avaient pris des coups d'une manière ou d'une autre. Et j'ai regardé la boxe et les boxeurs de manière un peu différente. D'abord, la garde croisée. Vous savez, quand on croise les bras au niveau du visage, c'est vraiment une position d'enfant battu. Et en regardant et en étudiant un peu la vie des boxeurs, ou en les observant, je me suis rendu compte que beaucoup étaient d'anciens enfants battus. Je me souviens des frères Lorsi, qui ont été respectivement champions d'Europe et champions du monde. Le plus jeune, Julien, était un champion formidable, avec un regard d'une clarté éblouissante. ils avaient leur père qui était éleveur de chiens, qui était au bord du ring, et il leur aboyait dessus de façon... ce n'était pas leur volonté. Même Mike Tyson, qui inspirait une peur animale à ses adversaires, Mike Tyson est quelqu'un d'une extrême sensibilité, et je soupçonne qu'il ait été violé durant son enfance. Il avait un surnom qui laisse assez peu de doutes à ce sujet dans le ghetto où il était. Et Mike Tyson, qui incarne la violence brute, avec son punch métallique, il a aussi arraché l'oreille d'Holyfield dans un combat qu'il allait perdre. Mike Tyson, je me souviens d'une image quand il était jeune, avec son père adoptif, Cus D'Amato. C'était un match de sélection pour les Jeux Olympiques, donc il devait avoir 17 ans. Et c'était donc son premier grand match au Madison Square Garden. Et il se réfugie sur le toit et il éclate en sanglots. Vous voyez qu'on n'est pas tout à fait dans la virilité idéale de Oates. Il éclate en sanglots et il dit « Est-ce qu'ils vont m'aimer ?»
Madame le juge, je vous le jure, je ne l'ai pas touché, pas de cocard, pas de fêlure de côte. Je suis désolé quand même pour elle. Madame le juge répond à Mike Tyson, 6 ans de prison ferme, pas de remise en liberté sous caution en attendant l'appel et la peur qu'il récidive. Bien avant, la victime dans cette affaire, qui s'appelle Desiree Washington, il y avait eu les coups sur l'actrice Robin Givens, son épouse, pendant 8 mois, et la peur qu'il prenne la fuite dans sa Lamborghini, elle lui confisque son passeport. Je m'y attendais, répond le condamné. La prison ne lui fait pas peur, il l'a connue à l'âge de 12 ans, et on l'en avait sorti pour qu'il fasse de la boxe. Charmant, avec ses nouveaux gardes du corps, photos d'identité judiciaire, empreintes digitales, fouilles au corps, regardez ma jolie paire de bracelets en acier inox, on le voit monter dans une limousine blanche pour aller au gymnase de la prison. Encore un petit geste de la main au supporter, bye bye, rendez-vous dans 3 ans. Il pourrait redevenir champion du monde dès l'âge de 28 ans, et s'il le croit, c'est peut-être assez pour qu'il se comporte de manière exemplaire. Son avocat, Vincent Fuller, a supplié la cour de ne pas le mettre au contact d'autres gros bras pour éviter un pugilat, et puis il a jeté l'éponge. Tyson a requis les services d'un autre avocat avec ce qui reste de sa fortune, de sa richesse personnelle estimée à 200 millions de dollars. Il ne resterait plus que 5 millions et des collections de bijoux et de voitures, 30 voitures et une atmosphère de corruption.
Le cas de Mike Tyson, surnommé Iron Mike, laisse penser que l'expression de la violence n'est pas du tout canalisée par les cordes du ring, Patrice Lelorin. Et d'ailleurs, j'ai lu les phrases que vont succéder à un tel point que finalement ces peines de prison vont l'empêcher de continuer à boxer.
Oui, mais ce sont des êtres d'excès. D'abord parce que la boxe, c'est l'excès en soi. Donc ces êtres-là, d'abord, qui connaissent ces émotions inégalables dans le carré de lumière, dans la vie civile, c'est pour ça qu'on les retrouve soit prédicateurs, soit mystiques, soit dans la dope, soit en train de faire un braquage, c'est-à-dire ils peuvent pas revenir à une vie normale parce que c'est trop turbulent. Tyson, c'est un peu la réplique de Sonny Liston dans les années 60. Hein. On sent qu'il a le malheur sur les épaules. Hein. Il porte le malheur du monde sur les épaules dès l'enfance. Alors, ça nous amène au thème de la déchéance, qui est un thème prégnant dans la boxe. J'ai mon ami Olivier Daza qui, à propos d'Eddie Merckx, avait écrit que le champion, au fond, ne pouvait s'accomplir qu'à travers son déclin. Je trouve que c'est une idée très belle, même si elle exclut de manière un peu radicale tous ceux qui ont bien programmé leur carrière et s'arrêtent, comme on dit, en pleine gloire. J'aime cette idée que le champion doit vivre sa propre mort de champion pour exister en tant que champion, ça me touche profondément. Et c'est-à-dire que le champion doit subir à son tour ce qu'il a fait subir aux autres. Il doit connaître l'échec, l'humiliation. Et si on suit cette théorie, on peut dire que les boxeurs s'accomplissent vraiment très bien, parce que le déclin et la déchéance, presque tous les champions de boxe terminent comme ça. Il y a quelques contre-exemples, on ne va pas tous les citer. Il y a Marciano qui s'est arrêté invaincu au bout de 49 victoires de rang. Il y a Carlos Monzon, le grand poids moyen argentin, mais qui est tombé dans une déchéance dans sa vie civile très vite. Il a assassiné sa femme, il allait en prison, il s'est à moitié suicidé en bagnole.
Bon. La plupart d'entre eux veulent remettre en jeu en permanence leur titre de champion du monde. Mais ce qui conduit...
Il y a quand même plusieurs raisons, si vous voulez. Joey Lewis revient parce qu'il n'a pas d'argent. Et ça, on le comprend. Il revient une fois de trop parce qu'il n'a pas d'argent. Récemment, nous avions notre Jean-Marc Mormec qui était encore sur le ring, mais c'est pour les mêmes raisons. C'est tout à fait déraisonnable à son âge de revenir. J'avais parlé avec lui quelques années avant de son match contre Klitschko et je lui déconseillais de rencontrer un des frères Klitschko.
Et vous dites à son âge, rappelons que dans le monde de la boxe, passé 30 ans, on est déjà vieux. Hein, ce que Mohamed Ali raconte bien. Le match qui va l'opposer à Foreman au Zaïre dont on a parlé, ce qu'on a appelé Rumble in the Jungle, il titille Foreman sur son âge. Il dit, mais il est vieux, il a 30 ans.
Oui, lui-même en a 33. Quand même. Donc, là, c'est du cinéma. Mais ce qui est intéressant, c'est après le troisième match contre Frazier, la fin de leur triptyque, où les deux hommes se sont autodétruits, le médecin de Ali, Ferdi Pacheco, lui dit « tes reins fonctionnent moins bien, tes réflexes sont moins beaux, il faut t'arrêter ». Et il vire Ferdi Pacheco. Et il va boxer jusqu'en 81, si vous voulez. En 1980, on le retrouve en face de Larry Holmes, qui était un peu son élève, un sparring partner, qui est le nouveau grand champion. Et Ali est un homme malade, il est erratique, il ne bouge pas. Et Holmes hésite même à le taper, mais comme le public gronde, il accélère un peu. Et Ali abandonne. Et d'ailleurs, on entendait sa harangue tout à l'heure, où il disait qu'il avait été deux fois KO, ça doit être une mauvaise traduction, parce qu'il n'a jamais été KO, Ali. C'est un type qui avait... On vante beaucoup sa grâce, sa rapidité. Il faut savoir que le champion, et il est dans de cette trempe-là, le champion, c'est celui qui sait souffrir plus que les autres. Pour la première fois, Ali ne termine pas un match. Il a 38 ans. Et Holmes vient vers lui, parce que Ali abandonne, c'est la seule fois de sa carrière. Il a déjà été battu, mais il n'a jamais abandonné, il n'a jamais été KO. Holmes vient vers lui et lui dit « Mais pourquoi tu t'es pas arrêté avant ?» Il est en pleurs, parce qu'il l'aime bien. Et Holmes dit « Jamais pareille chose ne m'arrivera ». Et 7 ans plus tard, on voit Larry Holmes avec des petits seins bedonnants revenir essayer de tâter du punch de Mike Tyson et il subit un KO, on craint sa mort, un KO effroyable. Donc il y a comme ça... Et Holmes, c'était pas pour l'argent, il avait acheté la moitié de la ville d'Easton. Voilà, il avait envie de voir ce que c'était. Et d'ailleurs, il a boxé jusqu'à 50 ans, pas si mal d'ailleurs. Donc il n'y a rien d'autre qui leur plaît plus au monde.
Quand des combats étaient arrangés au profit de la carrière d'un boxeur ou pour les proches de quelques parieurs triés sur le volet, ou les deux, on les faussait en général plus qu'on ne les truquait. Fausser un combat relevait d'une procédure simple et pas illégale par laquelle on opposait un boxeur de meilleure aptitude à un boxeur de moindre aptitude, qu'on avait effectivement pu faire passer pour meilleur qu'il ne l'était par d'autres matchs faussés. C'était une manœuvre très simple, comme sous l'expression « mismatching » ou « combat déséquilibré ». Comme le disait Truman Gibson, rares étaient les rencontres totalement truquées lorsque les mêmes intérêts profitaient autant aux deux camps, quel que soit le vainqueur, quelle importance. Ce n'était que s'il se présentait une possibilité de rapport de paris extraordinaire qu'on faisait appel au département du destin. Et seul celui qui devait perdre était au courant. On n'informait jamais le boxeur prédestiné à gagner, car c'est à lui qu'incombait en premier chef la charge de donner au combat truqué l'allure d'un vrai combat. Pour lui, il fallait que le combat soit vrai. Il devait boxer avec naturel et rester dans l'ignorance. En tant que complice mis au parfum, il représentait non seulement un danger potentiel pour le succès de la rencontre truquée, mais également une dépense potentielle inutile et malvenue. Par conséquent, le vainqueur d'un combat habilement truqué ne doit jamais savoir qu'il trempe dans une combine. On a dit qu'il est plus difficile de se coucher dans un bon combat que de le disputer. Mais la vanité humaine d'un vainqueur aide énormément à contrebalancer dans son cœur et sa tête tout soupçon quant au manque de crédibilité de son adversaire voué à perdre. « Patrice Lelorin, voilà qui vient encore plus compliquer ces rapports entre mythe et réalité inhérents au monde de la boxe. Certains combats sont truqués, se revendiquent même comme tels. Et là, je lisais un extrait de Night Train, l'ouvrage de Nick Tachès, dans lequel il explique justement que truquer ne veut pas dire fausser.
Magnifique biographie, oui, de Sonny Liston. Oui, là, il y a plusieurs choses. Les combats déséquilibrés, ça rentre parfois dans ce qu'on appelle les matchs d'encadrement, c'est-à-dire sur les matchs de préparation. Effectivement, le type qui vient en face, on peut appeler sac ou je sais pas quoi, il vient pas pour gagner. Il sait qu'il va pas gagner. Donc, mais la boxe génère cette situation particulière parce que on pourrait dire qu'une carrière est protégée, qu'elle est bien menée, voire arrangée. Bon, la frontière est poreuse entre les différents termes. Et le cas le plus célèbre, c'est celui de Primo Carnera, qui a été à son corps défendant l'emblème du fascisme italien dans les années 30. Et lui, les combats étaient vraiment achetés sans qu'il s'en doute. Et donc la boxe a ceci qu'elle amène au moment de vérité. Le moment de vérité, tous les sportifs le connaissent, c'est quand on atteint ses limites. Mais là, le moment de vérité est beaucoup plus cruel, puisqu'on a affaire à un faux champion.
Moment de vérité alors qu'on est dans un match truqué?
Non, parce que il arrive toujours le moment de vérité. Il y a un moment où on va affronter quelqu'un qui ne vient pas pour perdre. Et le moment de vérité pour Primo Carnera, il s'est incarné en la personne de Max Baer, qui était un juif new-yorkais très amusant, excentrique, mais que le fascisme ne faisait pas du tout rigoler. Et il lui a mis une rouste épouvantable. Et c'est où Primo Carnera, d'ailleurs, a été héroïque, parce que lui ne savait pas que ces matchs étaient achetés. Donc, c'était un géant, comme ça, il est tombé 10 fois, c'était épouvantable avant de tomber pour le compte.
Mais alors, quelle différence avec le catch, là, si les matchs de boxe sont truqués?
Mais d'abord, c'est quand même plutôt rare, ça a été un peu moins rare, mais c'était sur un coup pour faire monter les cotes dans les années 50, quand la mafia avait vraiment la main sur la boxe américaine, Frankie Carbo et Bintley Palermo. Ce que je veux dire, c'est que dans le catch, tout est comédie. Mm-hmm. Là, au moment de vérité, il n'y a pas de comédie. C'est-à-dire que le boxeur qui a été propulsé à un statut qu'il ne mérite pas, tout d'un coup, découvre ses vraies capacités, il découvre c'est arrivé à des champions français beaucoup plus récemment
de se découvrir meilleur qu'il ne pensait l'être à l'occasion d'un match truqué.
Non, le moment de vérité n'est pas le match truqué, c'est le moment où on se rend compte que tout a été plus ou moins arrangé avant. Et c'est l'inverse, c'est-à-dire Max Baer, contre Primo Carnera, c'est le vrai match. C'est le moment où Primo Carnera, la supercherie est découverte, si vous voulez. Mais il y a des choses moins tranchées, c'est-à-dire qu'il y a des carrières bien menées. Les matchs n'ont pas été truqués, mais les adversaires étaient choisis, étaient bien choisis, n'étaient pas trop dangereux. Vous savez que maintenant, il y a plein de fédérations, donc on joue avec les fédérations. On va chercher un titre de champion du monde là où le champion est le moins fort, par exemple. Moi, je me souviens de Christophe Tiozzo, qui était comme ça champion du monde. On avait fait venir un type qui s'appelait Inchulbeck, qui avait perdu son titre. Et Christophe Courrèges avait dit avant le match, il va tout de même pas gagner avec tout le fric qu'on lui donne. Bon, c'était quand même magnifique. Donc, Tiozzo a été champion du monde, et puis un jour est arrivé un type qui s'appelait Victor Cordoba, qui était panaméen, et pour Christophe Tiozzo, ça a été le moment de vérité. C'est-à-dire, il a pris son crochet du gauche tout le match, avec beaucoup d'héroïsme. Ce qui est émouvant, c'est que le faux champion, dans le moment de vérité, est souvent héroïque. Il est plus intéressant que dans les matchs trop faciles qu'il a eus.
I am just a poor boy, though my story's seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, wet and scared. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. By the night,
un grand merci à vous, Patrice Le Lorrain, d'être
c'est moi.
Venu nous parler de boxe aujourd'hui et d'écrire sur la boxe. Je renvoie les auditeurs à vos ouvrages. 4 Uppercuts, ce sont des nouvelles qu'on trouve aux éditions de la Table Ronde, et puis une biographie de Mohamed Ali, la légende de Mohamed Ali, toujours aux éditions de la Table Ronde. Et j'ai plaisir à le citer, l'ouvrage de Carol Oates sur la boxe, qu'on trouve aux éditions Souple, que j'ai trouvé remarquable, que vous trouvez moins bien que moi, je crois, Patrice Le Lorrain. Je vous laisserai, chers auditeurs, en juger.